mimétiquement vôtre, Voir le monde avec René Girard.
Une émission proposée par Jean-Louis Salasque.
Cette semaine, voici le premier chapitre du livre de René Girard, Je vois Satan tomber comme l'éclair, publié en 1999. René Girard y développe l'idée que la Bible et les Évangiles contiennent une compréhension de l'origine de la violence entre les hommes. Un examen attentif montre qu'il existe dans la Bible et les Évangiles une conception originale et méconnue du désir et de ses conflits. Pour appréhender son ancienneté, on peut remonter au récit de la chute dans la Genèse ou à la seconde moitié du Décalogue. Les commandements 6, 7, 8 et 9 sont aussi simples que brefs. Ils interdisent les violences les plus graves dans l'ordre de leur gravité. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Le dixième et dernier commandement tranche sur ceux qui le précèdent par sa longueur et par son objet. Au lieu d'interdire une action, il interdit un désir. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui est à lui. Sans être vraiment trompeuse, les traductions modernes lancent les lecteurs sur une fausse piste. Le verbe « convoiter » suggère qu'il doit s'agir ici d'un désir hors du commun, réservé aux pécheurs endurcis. Mais le terme hébreu, traduit par « convoiter », signifie tout simplement « désirer ». C'est lui qui désigne le désir d'Ève pour le fruit défendu. L'idée que le Décalogue consacrerait son commandement suprême à la prohibition d'un désir marginal réservé à une minorité n'est guère vraisemblable. Dans ce dixième commandement, il doit s'agir du désir de tous les hommes, du désir tout court. Si le Décalogue interdit le désir le plus fréquent, ne mérite-t-il pas alors le reproche que le monde moderne, presque unanime, adresse aux interdits religieux ? Le dixième commandement ne succombe-t-il pas à cette démangeaison gratuite d'interdire, à cette haine irrationnelle de la liberté que les penseurs modernes reprochent aux religieux en général et à la tradition judéo-chrétienne en particulier ? Avant de condamner les interdits comme inutilement répressifs, il convient de s'interroger sur les implications du désir défini dans le dixième commandement, le désir des biens du prochain. Si ce désir-là est le plus commun de tous, que se passerait-il si il était toléré et même encouragé? La guerre serait perpétuelle au sein de tous les groupes humains, de tous les sous-groupes, de toutes les familles. Pour penser que les interdits culturels sont inutiles, comme le répètent les démagogues de la modernité, il faut adhérer à l'individualisme le plus outrancier, celui qui présuppose l'autonomie totale des individus, c'est-à-dire l'autonomie de leurs désirs. Il faut penser en d'autres termes que les hommes sont naturellement enclins à ne pas désirer les biens du prochain. Mais il suffit de regarder deux enfants ou deux adultes qui se disputent pour une babiole pour comprendre que ce postulat est faux. C'est le postulat opposé qui sous-tend le dixième commandement du Décalogue. Si les individus sont naturellement enclins à désirer ce que leur prochain possède, il existe au sein des groupes humains une tendance très forte au conflit rivalitaire. Si cette tendance n'était pas contrecarrée, elle menacerait en permanence l'harmonie et même la survie de toutes les communautés. Les désirs rivalitaires sont d'autant plus redoutables qu'ils ont tendance à se renforcer réciproquement. C'est le principe de l'escalade et de la surenchère. Il y a là un phénomène si banal, si contraire à l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes, que nous préférons l'écarter de notre conscience. Cette indifférence au réel est un luxe que les petites sociétés archaïques ne pouvaient pas s'offrir. Le législateur qui interdit le désir des biens du prochain s'efforce de résoudre le problème numéro un de toute communauté humaine, la violence interne. En lisant le dixième commandement, on a l'impression d'assister au processus intellectuel de son élaboration. Pour empêcher les hommes de se battre, le législateur cherche d'abord à leur interdire tous les objets qu'ils ne cessent de se disputer. Et il décide d'en dresser la liste. Mais il s'aperçoit vite que ces objets sont trop nombreux. Il ne peut pas les énumérer tous. Il s'interrompt donc en cours de route et il se tourne vers celui qui est toujours présent. Le prochain, le voisin, l'être dont il est clair qu'on désire tout ce qui est à lui. Si les objets que nous désirons appartiennent toujours au prochain, c'est le prochain de toute évidence qui les rend désirables. Dans la formulation de l'interdit, par conséquent, le prochain doit supplanter les objets. Et effectivement, il les supplante. Dans le dernier membre de la phrase qui interdit non plus des objets énumérés un à un, mais tout ce qui est au prochain. Ce que le dixième commandement esquisse, sans le définir explicitement, c'est une révolution copernicienne dans la compréhension du désir. On croit que le désir est objectif ou subjectif, mais en réalité, il repose toujours sur un autrui qui valorise les objets. Pour maintenir la paix entre les hommes, il faut définir l'interdit en fonction de cette redoutable constatation, le prochain est le modèle de nos désirs. C'est ce que j'appelle le désir mimétique. Le désir mimétique n'est pas toujours conflictuel, mais il l'est fréquemment, et ceci pour des raisons que le dixième commandement rend évidentes. L'objet que je désire à l'exemple de mon prochain, le prochain, lui, entend le conserver, le réserver à son propre usage. Il ne se le laissera pas arracher sans combat. Mon désir sera contrecarré. Mais au lieu de se résigner et de se déplacer vers un autre objet, 9 fois sur 10, il va se rebiffer et se renforcer en imitant plus que jamais le désir de son modèle. L'opposition exaspère le désir. Si elle n'en provient pas au départ, elle en proviendra bientôt, car si l'imitation du désir prochain engendre la rivalité en retour engendre l'imitation. Le surgissement d'un rival semble confirmer le bien fondé du désir, la valeur immense de l'objet désiré. L'imitation se renforce au sein même de l'hostilité. Mais les rivaux font tout ce qu'ils peuvent pour cacher à autrui et se cacher à eux-mêmes la cause de ce renforcement. La réciproque est vraie. En imitant son désir, je donne à mon rival l'impression qu'il a de bonnes raisons de désirer ce qu'il désire. Et l'intensité de son désir redouble. La possession tranquille affaiblit le désir. En donnant à mon modèle un rival, je lui restitue en quelque sorte le désir qu'il me prête. Je donne un modèle à mon propre modèle. Et le spectacle de mon désir renforce le sien. Au moment précis où, en s'opposant à moi, il renforce le mien. La nature mimétique du désir rend compte du mauvais fonctionnement habituel des rapports humains. Nos sciences sociales devraient tenir compte d'un phénomène qu'il faut bien qualifier de normal. Mais elles s'obstinent à voir dans la discorde quelque chose d'accidentel et de si imprévisible par conséquent qu'il est impossible d'en tenir compte dans l'étude de la culture. Non seulement nous sommes aveugles aux rivalités mimétiques dans notre monde, mais chaque fois que nous célébrons la puissance de nos désirs, nous les glorifions. Nous nous félicitons de porter en nous-mêmes un désir qui est l'expansion des choses infinies. Mais nous ne voyons pas ce que dissimule cet infini. C'est l'idolâtrie du prochain, laquelle est forcément associée à l'idolâtrie de nous-mêmes. Les conflits inextricables qui résultent de notre double idolâtrie sont la source principale de la violence humaine. C'est pour couper court à tout cela que le Lévitique contient le commandement fameux « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est-à-dire que tu l'aimeras ni plus ni moins que toi-même. La rivalité des désirs tend non seulement à s'exaspérer, mais en s'exaspérant, elle se diffuse aux alentours. Elle se transmet à des tiers, aussi avides de fausses infinités que nous le sommes nous-mêmes. La source principale de la violence entre les hommes, c'est la rivalité mimétique. Elle n'est pas accidentelle, mais elle n'est pas non plus le fruit d'un instinct d'agression ou d'une pulsion agressive. Les rivalités mimétiques peuvent devenir si intenses que les rivaux se discréditent réciproquement. Ils se dérobent leurs possessions, ils subornent leurs épouses respectives, et finalement, ils ne reculent même plus devant le meurtre. Je viens de mentionner à nouveau, vous l'aurez remarqué, les 4 violences majeures interdites par les 4 commandements qui précèdent le 10e. Si le décalogue consacre son commandement ultime à interdire le désir des biens du prochain, c'est parce qu'il reconnaît lucidement, dans ce désir, le responsable des violences interdites dans les 4 commandements qui le précèdent. Si l'on cessait de désirer les biens du prochain, on ne se rendrait jamais coupable ni de meurtre, ni d'adultère, ni de vol, ni de faux témoignage. Si le 10e commandement était respecté, il rendrait superflu les 4 commandements qui le précèdent. Au lieu de commencer par la cause et de poursuivre par les conséquences, comme ferait un exposé philosophique, le décalogue suit l'ordre inverse. Il part d'abord au plus pressé. Pour écarter la violence, il interdit les actions violentes. Il se retourne ensuite vers la cause et découvre le désir inspiré par le prochain. Même si le mimétisme du désir humain est le grand responsable des violences qui nous accablent, il ne faut pas en conclure que le désir mimétique est mauvais. Si nos désirs n'étaient pas mimétiques, ils seraient à jamais fixés sur des objets prédéterminés. Ils seraient une forme particulière d'instinct. Les hommes ne pourraient pas plus changer de désir que les vaches dans un pré. Sans désir mimétique, il n'y aurait ni liberté, ni humanité. Le désir mimétique est intrinsèquement bon. L'homme est cette créature qui a perdu une partie de son instinct animal pour accéder à ce qu'on appelle le désir. Une fois leurs besoins naturels assouvis, les hommes désirent intensément, mais ils ne savent pas quoi exactement, car aucun instinct ne les guide. Pour inspirer vraiment, nous devons recourir aux hommes qui nous entourent, nous devons leur emprunter leur désir. Cet emprunt se fait souvent sans que le prêteur ni l'emprunteur ne s'en aperçoivent. Ce n'est pas seulement leur désir qu'on emprunte, c'est une foule de comportements, d'attitudes, de savoirs, de préjugés, de préférences, etc., au sein desquels l'emprunt le plus lourd de conséquences, le désir, passe souvent inaperçu. Si leur désir n'était pas mimétique, si les enfants ne choisissaient pas pour modèle, forcément, les êtres humains qui les entourent, l'humanité n'aurait ni langage ni culture. Le désir mimétique nous fait échapper à l'animalité. Il est responsable en nous du meilleur comme du pire, de ce qui nous abaisse au-dessous de l'animal, aussi bien que de ce qui nous élève au-dessus de lui. Merci de votre écoute. À notre prochaine rencontre.